Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir, nous nous retrouvons donc en cette soirée dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Après avoir tourné en rond, je fixais mon choix sur une manière de pension de famille, dont la discrétion me retint. La rue, sombre et tranquille, était bordée de résidences ogivales, chargées de moulures absurdes et de boiseries. Les fenêtres, garnies de vitraux, ne laissaient rien filtrer d'une intimité épaisse. Un simple rectangle de marbre noir vissé sur la façade muette signalait l'hôtel aux passants. Les manifestations de la vie qu'on devinait feutrées s'arrêtaient à l'entresol auquel on accédait par un escalier droit couvert d'un tapis qui prenait amorce de plain pied avec le trottoir. Une fois sur le palier, j'attendis en vain qu'on s'occupât de moi, raclant alternativement mes chaussures et ma gorge jusqu'à ce que j'eusse aperçu une sonnette provocante. J'appuyai et l'on tarda encore à venir. Un individu entre deux âges, avec cette physionomie maligne que je n'aime pas beaucoup, d'homme qui ne fera jamais la guerre. Il était en pantoufles et en bras de chemise, une serviette nouée autour du cou. « Je vous dérange, vous étiez à table. »« Il n'y a pas de mal, » dit cet embusqué des grandes profondeurs. « Vous désirez quelque chose pour un moment ?» Son petit œil fouillait l'espace autour de moi comme s'il cherchait à se poser sur un perchoir qui lui fit défaut. « C'est exactement cela, dis-je. Je ne sais pas combien de temps je vais demeurer. Ça dépend d'un certain nombre de gens. » Un vague sourire se dessina sur ses lèvres. « Je vois. Ma parole, ne soyez pas trop bruyant. Rassurez-vous, je ne serai pas souvent là. » L'homme ne put retenir un haut le corps, son visage prit du recul. « Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé d'adresse ? Vous n'êtes jamais venu, n'est-ce pas ? Il faut un commencement à tout. J'arrive des Charentes ce matin et... » L'ennuyeux, dit-il en se grattant la tête, c'est que je ne crois pas avoir de chambre. Je regrette infiniment. » À cet instant, une souillon, déguisée en soubrette, jaillit d'un cagibi, porteuse d'un seau à champagne où tintait une bouteille vide. Elle avait dû saisir la fin de notre conversation, car elle intervint. « Le 8 et le 15 sont libres. Vous voyez, dis-je, tout s'arrange. » « Vous tenez vraiment à rester ici, dit l'homme. C'est très cher, vous savez. » J'insistais, d'autant mieux que cet hôtelier, parlant contre son intérêt, levait les quelques préventions que sa mine chafouine avait fait naître en moi. Une pareille honnêteté n'est pas un commerce ordinaire. « Faites-vous restaurant, ajoutai-je. « Bien sûr que non, grommela-t-il. « Mais la petite peut vous servir dans votre chambre. Vous trouverez la carte accrochée au mur. » Il lança à la cantonade « Le 15, au troisième !» Et la souillon réapparut, hésita devant mes bagages, interrogeant son patron du regard. « Eh oui !» soupira celui-ci avec un haussement imperceptible des épaules que je pris pour un gage de paternalisme. « Qu'à cela ne tienne, dis-je à la bonne franquette, nous ferons deux voyages au lieu d'un. » Le patron attendit que la servante eût commencé de monter pour s'approcher de moi. « Dites-vous bien qu'en règle générale, je n'aime pas beaucoup que les clients déambulent dans les escaliers. Ni vu ni connu, c'est la formule de la maison. » Je l'entends bien ainsi, répondis-je, de manière à le rassurer. Sans cela, je serais descendu ailleurs. Après tout, dit-il, chacun a ses goûts. La chambre 15, tendue d'un papier neutre, baignait dans la clarté orange filtrée par un grand store. La flaque vive d'une glace sur le mur captait le meilleur de cette lumière et frappait d'entrée la rétine. Le reste de la pièce en tirait une sorte de profondeur douce et reposante, un lit immense, flanqué d'une méridienne, une paire de fauteuils, l'appareil sanitaire escamoté derrière un paravent composait tout l'ameublement, pas de table. J'en fis la remarque à la soubrette. Elle partit d'un lent rire niais. « Il y a la table de nuit, » dit-elle. L'atmosphère sentait le renfermer. J'allais à la fenêtre, elle donnait sur une cour intérieure, ponctuée de stores jaunes semblables aux miens. La fille dans mon dos se tenait vacante. Je lui fis face. « Vous attendez quelque chose ?»« C'est 1000 francs, » dit-elle. « La confiance règne, » plaisantai-je, en la raccompagnant jusqu'à la porte où elle s'arrêta. « Quand madame arrivera, à quel nom la ferai-je monter ?»« Madame. » Machinalement, je considérais ma main gauche, pensant que j'avais peut-être remis mon alliance par distraction. « Il n'y a pas de madame, dis-je. Est-ce donc si étonnant ?» Le sourcil arrondi, elle me dévisageait avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Non, bredouilla-t-elle. Vous n'avez besoin de rien ?» Je me rappelais que je pouvais prendre une collation dans ma chambre. Une affichette épinglée près du commutateur m'y invitait, même formellement. Je l'eus rapidement parcouru. « Il n'y a pas autre chose que le caviar de la Volga ou la pourlarde dans sa gelée, une bonne entrecôte, par exemple. »« C'est ce qui se consomme habituellement. Nous ne faisons que le buffet froid. » 5 minutes plus tard, elle déposait à mon chevet un plateau garni de mets inhabituels et une demi-bouteille d'un champagne rosé dont j'ai entendu par la suite vanter les propriétés aphrodisiaques. « Je n'ai mis qu'un seul couvert, précisa-t-elle, sur un ton qui laissait percer par partie égale un léger reproche, un peu d'admiration, une horreur vague. J'ai découvert le caviar par 40 degrés à l'ombre, allongé tout nu sur mon lit comme un romain. Cette dînette orgiaque dans une chambre d'hôtel perdue, j'étais trop inconscient pour en goûter la saveur équivoque. Entre 2 gorgées de champagne, je mordais dans un toast. Ce rythme était le mien. J'ignorais que toute la solitude dans le plaisir fût un péché. Le raffinement n'était pas mon fort. La sensation que quelqu'un me regardait ne m'effleura pas immédiatement. Je venais de déplier mes vêtements. J'avais donné un peu d'air à mon poulet, un peu d'eau à mon nasalé, en l'immergeant dans la cuvette du lavabo. J'étais en train de procéder à ce que Denise nommait une grande toilette et qu'elle exigeait de moi au premier soir de notre amour, quand, brusquement, je me retournai d'un bloc, mu par un de ces décrets profonds que le corps prend avant l'esprit. Je n'étais plus seul. L'inanité de mon trouble m'apparut en même temps que je le ressentais. Personne ne s'était introduit dans la pièce, et cette supposition même était grotesque. Le verrou que j'avais tiré avant de me déshabiller, l'abîme sous la fenêtre, la nudité des murs interdisaient la moindre présomption de brèche ou de cachette. Restait cette onde qui m'avait sollicité, cette impression sourde à la limite de l'instinct, sur le compte de quoi je ne pouvais me tromper. Songeant qu'on m'épiait peut-être par le trou de la serrure, je me drapai dans quelques-unes des serviettes multiples qui pendaient sur le paravent et ouvris doucement la porte. Mais le couloir, faiblement éclairé comme une coursive de navire, était désert. Seule la déglutition lointaine d'une tuyauterie, une sonnerie venue d'en bas, rompait le silence. On ne percevait même plus ces craquements, ces frémissements, qui avaient parcouru l'étage tout à l'heure quand le voisin d'à côté était rentré. Au fait, pourquoi possédait-il une clé et pas moi ? En me penchant, je vis qu'il n'avait sur sa porte ni bouton ni numéro. C'était sans doute un habitué attaché en quelque façon à l'établissement. Résolu d'imputer cet incident à l'énervement ou à une digestion trop subtile, je regagnai ma chambre, dont les barrières réelles me rassurèrent et me mis à vaquer à des besognes d'élégance. L'après-midi est le royaume des femmes. Je me proposais d'attaquer mon cousin Benjo par son épouse Myriam. Celle-ci, pour ce que j'en savais, était une assez jolie pimbèche à petite bouche férue de bridge et de mondanité, fille unique d'un romancier catholique et d'une poétesse juive. Elle se trouvait déjà à la tête de 4 noms de famille avant de se marier. Pour le privilège de lui en donner un 5e, le malheureux Marcel Benjo, qui était avocat d'assises dans la journée, passait des nuits blanches à rédiger des mémentos anonymes à l'usage des candidats à la licence. Bel homme au demeurant, avec assez de vide dans les opinions pour qu'on lui eût confié la pratique de quelque cause sonore où sa bêtise avait plaidé pour lui. Bien que les Benjo nous eussent toujours tenus éloignés de leur carrière brillante, je pensais qu'ils ne se refuseraient pas à m'accueillir. Je n'attendais d'eux aucun bénéfice matériel ou professionnel. Mais cette sollicitude éclairée que les ménages de la quarantaine se piquent de dispenser aux jeunes gens qu'ils croient avoir à charge de former. L'important était de leur en donner le goût, et j'étais prêt à me faire entre leurs mains pâte molle ou cire vierge, pour peu qu'ils m'assurassent cette frange de bon ton qui doit garantir une vie et cet arrière-pays de sympathie qui la peut orner. À cet égard, mon avenir dépendait beaucoup de mes cravates. J'étais sur le point d'en nouer une aux couleurs du jour lorsque la certitude, cette fois, s'installa en moi qu'on ne me quittait pas des yeux. Était-ce la vibration d'une couche d'air? Un froissement infime? Le malaise se déplaçait, m'escortant là où j'essayais de le fuir. Mon cœur se mit à battre comme devant certains portraits dont l'expression à la fois fixe et mobile ne vous lâche plus sous quelque perspective que l'on tente de s'y soustraire. De droite à gauche, de gauche à droite, ces regards impassibles et magnétiques vous accompagnent. On est leur proie. Mais le seul tableau qui figura sur le mur me renvoyait ma propre image dans le cadre de la glace. Cette image débonnaire, d'un petit provincial, un peu gêné aux entournures, j'en avais souvent fait l'inventaire, me complaisant à prendre mes grimaces pour de la désinvolture, mon étourderie pour de l'inspiration, ma bonne volonté pour de la volonté tout court. Une fois encore, je ne résistais pas au désir d'interroger ce reflet, avide de surprendre sous mon visage quotidien les contours d'un autre moi-même que j'ignorais peut-être ou mieux la préfiguration de celui que j'allais devenir. Mais les miroirs embués par trop de souvenances s'obstinent à ne répondre qu'au passé, et c'est une tentation assez commune aux hommes que de chercher au-delà, que de les retourner pour savoir ce qu'il y a derrière, vieux mystère décevant. On n'y découvre rien qu'on ne leur ait apporté. Les miroirs sont nos auberges espagnoles.
Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Ah, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Pire que cette fois. Ah, je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb, via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie. Les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants. Je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas, dis-leur que cette fois je pars. Je t'aimais bien, je garde ta tendresse, tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent, peut-être à demain. N'oubliez pas frangin, je change de chemin, je change de beau temps.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. La surface étincelante de ce miroir me fascinait. Elle semblait douée d'une densité métallique où les objets s'absorbaient autant qu'ils se réfléchissaient. Je voulus m'en saisir pour le sonder plus complètement. Il était encastré dans le mur auquel il se raccordait par un mince galon de mastic ou de ciment inébranlable. Cette particularité qui empêchait de le déplacer m'irrita de même que sa situation qui commandait le lit. Je passe pas mal de temps devant la glace, mais je n'autorise pas de bon gré celle-ci à me surprendre. Quoi qu'il en fût de la bizarrerie que je mis au compte d'un hôtelier trop souvent volé dans ses accessoires, à partir de ce moment, je me considérais, malgré moi, en représentation, et tout ce que je fis cessa d'avoir l'air vrai. Nouer cette cravate, lacer mes chaussures, enfiler une veste, autant de gestes qu'il me fallut décomposer avec une application concertée, comme si je les accomplissais pour la première fois. Et je me surpris à me brosser les dents avec un rictus d'affiches publicitaires. Une sorte de soulagement s'empara de moi lorsqu'il ne me resta plus qu'à empoigner mon pot de fleurs pour sortir. Dans l'escalier, je croisai un couple qui montait, précédé par son chuchotement. L'homme masquait la femme derrière une carrure dont il exagérait l'ampleur. Je le saluai d'un signe de tête auquel il ne répondit pas. À l'entresol, le patron, qui était sans doute parti se raser, était remplacé par une dame à cheveux blancs d'un maintien très respectable. Elle s'entretenait avec la souillon d'un achat de plate-côte lié à un projet de pot-au-feu. Je m'approchai à pas de velours. « Excusez-moi, madame, mais je n'ai pas fermé là-haut, il n'y a pas de clé. N'importe qui peut entrer. »«
Oh, ça n'a pas d'importance, » dit-elle avec un bon sourire. « Mais j'ai toutes mes affaires. »«
C'est le monsieur du 15, » précisa la souillon. « Tiens donc, » fit la dame avec un intérêt subit dont elle avait grand-peine à se défendre. « Vous n'avez rien à craindre. La porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Il faut le passe de la petite. » Et si je rentre tard ?
Oh, il y a toujours quelqu'un, répondit-elle suavement.
Il est probable que je ne dînerai pas ici. Une jeune gaieté lui tira les paupières et la Souillon elle-même ne put comprimer un gloussement.
« Cher monsieur, vous êtes tout à fait libre. »
Et moi, par contagion, je riais aux anges en gagnant la rue. J'avais hâte, maintenant, de faire constater ma présence à Paris, hâte de la constater moi-même. Sur les Champs-Élysées, où m'avait conduit un autobus de fortune, les promeneurs rares et fourbus ne me retournaient nul écho. J'en étais réduit à lorgner les vitrines où ma silhouette mannequin transposable m'apparaissait en filigrane sur fond d'automobiles américaines, de tissus d'ameublement, de cuirs épaux et même de soutien-gorge. La voiture, l'appartement, la femme, ce sont les rubriques d'un certain bonheur. Je posais en pied pour la douceur de vivre. La réussite prenait mes mesures. À 3 heures, je jugeai qu'il était décent de me pointer vers les Bingeaux, qui occupaient un appartement de façade avenue Franklin Roosevelt. Chez nous, où l'on n'économise pas ses foulées, l'usage n'est pas de téléphoner au préalable, on préfère avoir l'air d'entrer en passant. Si je vous dérange, dites-le-moi. Maître Bingeaux, s'il vous plaît. Près de la porte de l'ascenseur, une femme vêtue d'une blouse blanche trônait derrière un comptoir encombré d'objets hétéroclites. « Au 3e, où il y a du monde, dit-elle, débarrassez-vous de votre vestiaire. » Elle happa mon nasalé que je lui abandonnais, subjugué, et me remit en échange un bout de carton marqué d'un numéro. « Ne le perdez pas, c'est tout ce que vous apportez, ce n'est pas grand-chose. » Mœurs surprenant. On parle de la familiarité des servantes de province, que dire de celle des concierges parisiennes ? « Eh oui, répondit Chepenot, c'est pourquoi j'aurais du moins voulu le monter moi-même. Madame a recommandé qu'on laisse tout ici pour ne pas mettre trop de désordre dans le salon. De toute manière, vous n'avez aucune chance d'être le premier. » Elle n'eut pas le loisir de préciser cette affirmation téméraire, car une bande joyeuse d'hommes et de femmes aux bras nus pénétrait sous la voûte dans des effluves d'ambre solaire. Poussé par leur clameur, je grimpais les escaliers sans avoir le temps de me préparer aux circonstances et me retrouvai tout démuni devant la porte grande ouverte des Bingeaux, chez qui régnait une effervescence infernale. Des gens en farandole circulaient à travers l'appartement, se bousculant dans tous les sens, s'interpellant avec des accents chaleureux qui n'éveillaient en moi aucune résonance. Tout m'était étranger de ce sabbat d'adultes distingués. Mon esprit d'entreprise en fut ébranlé. Une timidité obtuse m'envahit. Personne, heureusement, ne me prêtait intérêt et je pus m'approcher de Marcel sans être inquiété. Il causait avec un personnage à cheveux blancs et soignés qu'il appelait « Monsieur le Président ». Il avait pris beaucoup d'importance depuis qu'il était venu se retaper à la maison un mois avant son mariage. Un bâtonnier en lui s'épanouissait déjà sous le gilet de daim. Je me plaçai dans son champ visuel. « Pour les cotillons, disait-il, Muriel et Myriam s'en sont chargés, mais les feux de Bengale !»«
Il n'y a plus d'artificiers, répondait le président, et je ne crois pas d'ailleurs que nos contemporains apprécient tellement ces fusées dans le ciel, dit ces détonations. » La guerre a créé des réflexes conditionnés qu'il n'est pas de mauvais goût d'épargner à ses invités. Aux régates de Barfleur, les James James ont remplacé leur coup de canon par un lâcher de colombe. Quid juris ? Je ne sais pas si c'est très réglementaire, mais ça vous donne la tendance.
Veuillez m'excuser un instant, fit Marcel en m'apercevant. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ne me dis pas que tu es à Paris.
Le beau vieillard s'écarta, nous laissant dans une encoignure.
« Bah, je débarque. Je suis venu aussitôt. Je suis content de te voir. »
« Oh ben, tu as de la chance, » dit-il, gêné. « Nous ne sommes pas ici en ce moment, nous sommes à Oulgat. Ce que tu vois là, c'est un rallye, nous ne faisons que passer le temps de nous rafraîchir. Ta mère va bien, et ta femme, c'est que tu es marié à présent. » « La tienne, » dis-je, « j'aimerais bien lui être présenté. » « Trouve-la si tu peux, elle est débordée. Tout ce joli monde dîne à la villa ce soir. Il va falloir se mettre en route. Nous revenons au début du mois, tu seras peut-être encore là. Pardonne-moi de te plaquer si vite, mais je dois dire un mot au président. » « Un instant, » dis-je, avec un regain de gourmandise, « mais quel est ce président ? Picard, le président des fêtes !» J'irai un moment parmi ces jeunes femmes et ces hommes, toujours jeunes, enviant leurs débraillés élégants, patines précieuses. Je me sentais propre et misérable comme un sou neuf. « Vous, vous n'avez pas de drink, mon vieux. Il ne faut pas vous laisser abattre, » me dit une personne au nez spirituel, coiffée en pâtre grec. Elle tenait à la main une carafe glacée, me tendait un verre. « Est-ce que nous ne serions pas cousins, par hasard ?»« C'est possible, » dit-elle, « j'en ai tellement. Je me présente, Benoît Laborie. Avec qui faites-vous équipe ?» « Jusqu'ici avec votre tante Juliette, je suis son fils, n'êtes-vous pas l'épouse de Marcel ?»«
Le petit cousin !» s'exclama-t-elle cruellement, « quel dommage ! Mais nous ne pouvons pas vous recevoir, vous comprenez, nous recevons !»
Sans relever cette justification un peu spécieuse, je lui dis pour la retenir auprès de moi, « Je vous avais apporté une plante de notre jardin, on me l'a prise, je peux descendre la chercher ?» Elle me coupa d'une pirouette, « mais ce n'est pas la peine, Oulgat en regorge, ce sera pour une autre fois. » Mais se ravisant, elle effectua une volte-face. « Son nom ne commence pas par un B à propos, nous cherchons le plus grand nombre de choses possibles commençant par un B, pour notre course au trésor, bégonia, blaireau, bocal, baleine de parapluie naturellement ou de corset. À bientôt, ne quittez pas Paris sans nous dire au revoir. » Un peu plus tard, entre deux portes, j'entendis Marcel lui demander « On pourrait peut-être lui faire une petite place dans une équipe ?» Et qu'elle répondait « C'est la barbe. Avec qui voulez-vous mettre un type comme ça ?» Je me sentis extrêmement fautif. Peut-être ne s'agissait-il pas de moi. Comme ils étaient venus, ils s'en allèrent dans la joie et le tumulte. Je restais seul derrière eux, au milieu de l'entrée, où déjà un extra commençait de balayer. La concierge me rendit mon pot de fleurs, qui avait survécu à cette razzia de sauterelles. M'indiquant un plateau couvert de modèles, elle dit « On laisse ce qu'on veut. » Je posai un billet de 100 francs par respect humain. Dehors, j'écoutais leurs voitures s'élancer l'une après l'autre vers une apothéose que je ne pouvais concevoir. Puis ce fut à nouveau le silence, la chaleur, l'ennui. Je découvris une oasis de gravier et de feuillage plus bas vers la Seine, du côté de la Concorde, que j'évitais à cause de l'agent de police. Des ânes de salon harnachés comme des bayadères piaffaient au licol contre une baraque de marionnettes au volet clos. Un tonnelet d'osier traîné par des chèvres avait trouvé une remise derrière un bosquet de ballons rouges et des soleils en celluloïdes piqués sur de minces tiges flexibles. Je m'assis sur un banc. L'âme saisie par la mélancolie des kiosques sans musique et des moulins sans vent. J'avais déjà usé la moitié de ma journée en pure perte. Le seul bénéfice que j'en retirasse était la découverte de Myriam. « Vous, vous n'avez pas de drink, mon vieux. » Cette phrase qu'elle m'avait lancée à la figure, il m'en restait des éclats partout comme des confettis et un sentiment mêlé d'irritation et de gratitude. Elle m'avait tapé dans l'œil. Je l'exécrais et je la désirais. Cette contorsion du cœur à laquelle je n'étais pas habitué me faisait mal. La vie simple ne m'avait pas armé pour l'exubérance, la futilité, l'art d'accommoder les usages.
elle me séparait de ceux qui détiennent le véritable mode d'emploi. Méprisé et berçant mon mépris, je sentis des résolutions se durcir en moi. Je n'avais plus rien à faire dans les jardins d'enfants. J'entrai dans un café pour téléphoner à l'agence de publicité où mon père avait laissé un souvenir, du moins ma mère le croyait-elle. « Demande à Monsieur Vidalin, il te mettra sûrement le pied à l'étrier. Il est maintenant assis dans un fauteuil, celui qu'occuperait ton pauvre père s'il n'était pas parti si vite. » Au milieu d'un concert de voix contradictoires, je parvins à discerner que Monsieur Vidalin était en vacances. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Antoine Blondin, « L'humeur vagabonde », que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.